Écoutez, un des avantages d'être chercheur, c'est à la fois de ne pas être obligé de mettre de cravate et de pouvoir faire aussi des discours sans cravate. Et donc, je vais essayer de vous parler de façon extrêmement simple de ce que l'on va faire. Mais avant tout, très sincèrement, je tiens à remercier, sans hiérarchie particulière, remercier tout le monde, remercier tous ceux qui sont venus pour travailler à cette réflexion, et surtout me réjouir de retrouver ici bien des visages connus, des fois depuis 20 ou 30 ans. Il ne faut pas trop évoquer cette histoire qui commence à être un peu longue, mais je pense qu'il y a tout un groupe, à la fois un groupe de réflexion scientifique, de connivence scientifique, et en même temps un groupe d'amitié qui s'est construit autour de ces questions, et c'est quelque chose d'extrêmement réjouissant. Donc, pour essayer de réfléchir à ce qu'est ce, et pour vous présenter ce qu'est ce colloque, on peut dire des choses très simples pour commencer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un colloque, ou qu'est-ce que c'est qu'un atelier, ou qu'est-ce que c'est qu'un, disons, un lieu de travail quel qu'il soit, c'est un moment de réflexion. C'est un moment où on tente autant que possible de suspendre les certitudes. Et c'est un moment où on essaye de confronter des approches et d'harmoniser des langages. C'est le moment où on est, chacun dans sa spécialité, habitué à manier tout un ensemble de concepts. Et puis là, d'un seul coup, on est obligé de parler avec des gens qui n'ont pas le même type de langage, qui n'ont pas forcément la même habitude de réflexion ou le même angle d'attaque des problèmes. Et donc, il faut commencer à parler ensemble, il faut commencer à négocier sur des termes et il faut commencer à réussir à se comprendre sur les seuils, au seuil de sa discipline. Et quand on travaille sur les seuils, c'est souvent ce qui est le plus intéressant, parce que ça permet d'être obligé de penser depuis les positions de l'autre. Alors, de quoi s'agit-il? On pourrait dire que dans ce colloque, il s'agit simplement de prendre les choses très simplement. Vous savez qu'il y a un philosophe célèbre qui disait que les philosophes n'avaient fait qu'interpréter le monde et qu'il était temps de le changer. Ce qui est tout à fait évident, c'est que dans ce cadre du développement et dans le cadre, disons, de la santé notamment, on a plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire on a plutôt essayé de changer le monde avant même d'avoir essayé de le penser dans des catégories un petit peu solides. Et donc le problème que l'on se pose, c'est d'essayer de comprendre, et non pas comprendre uniquement pour construire un livre ou pour construire un article qui sera plus ou moins lu, mais c'est de comprendre à la fois, bien évidemment, pour produire un matériau scientifique, mais aussi pour avoir une production qui, modestement, vraiment très modestement, puisse commencer à changer un peu le réel, ou en tout cas à accompagner des changements que l'on a déjà vu apparaître dans ce domaine de l'obstétrique. La deuxième chose, c'est qu'on va adopter, et on a adopté ici, une posture qui est une posture que j'appelle volontiers une posture du souci. Vous savez que dans le domaine de l'anthropologie, à mon sens à tort, on a souvent distingué entre une anthropologie fondamentale et une anthropologie appliquée. Je crois qu'il faut dire les choses très clairement. C'est pas parce qu'elle ne sert à rien qu'une anthropologie est fondamentale, et c'est pas parce qu'elle est impliquée dans la résolution d'enjeux forts de développement qu'elle serait appliquée. C'est-à-dire qu'elle ne prendrait pas le temps d'essayer d'avoir des méthodologies solides, des méthodologies sérieuses pour décrire le monde et décrire la complexité du monde. Donc bien sûr, on a affaire là à une anthropologie soucieuse, et on a affaire à une anthropologie soucieuse de ses résultats, mais pas uniquement de ses résultats. Je crois qu'une des choses tout à fait importantes, et vraiment votre présence le manifeste absolument, c'est qu'il y a petit à petit, autour de cette question de la mortalité maternelle, on voit se constituer des équipes. Et quelque chose qui est tout à fait encourageant, en tout cas pour un anthropologue, qui est par ailleurs enseignant en France, c'est de voir que se construisent des équipes africaines. L'UMI est une unité mixte, à la fois elle est d'emblée nord-sud et elle mélange aussi les disciplines. Mais ce qui est tout à fait bien, c'est de voir comment des gens qui ont commencé à travailler dans le domaine de l'anthropologie de la santé, petit à petit, réussissent à construire des équipes interrégionales et commencent à échanger des points de vue, commencent à aborder de façon très précise différents points de réflexion, commencent à communiquer entre eux, avec des bases qui sont des bases scientifiques, méthodologiques, bibliographiques, qui sont les mêmes et qui sont des bases très solides. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est à mettre à l'actif déjà du passif, mais en même temps qui sera sans doute très manifeste lors de nos débats. Alors maintenant, pour aborder les thématiques, je vais vous proposer de réfléchir sur une très mauvaise plaisanterie, un petit peu machiste, et sans doute politiquement très incorrecte, mais bon, des fois, ça a l'avantage de faire un petit peu réfléchir. Alors je vais partir et je vais me mettre sous la protection d'un président américain et essayer de... rassurez-vous, c'est pas Bill Clinton, mais je vais essayer de réfléchir à partir d'un ancien président américain qui s'appelle Coolidge, ou qui s'appelait le président Coolidge. Vous savez, c'était quelqu'un qui, dans les années 1930, a eu à gérer des crises économiques et qui était un homme peu loquace, enfin... Notamment, on disait toujours qu'il n'était pas capable de prononcer trois mots de suite. Et une fois, une dame voulait le piéger lors d'un banquet. Et comme il avait entendu parler du piège que voulait lui tendre cette dame, et qui avait dit « je suis sûr de lui faire prononcer trois mots », donc la dame arrive au banquet et le président Coolidge lui dit simplement « you lose ». Et voilà, donc il n'avait prononcé que deux mots et elle avait perdu son pari. Mais je vais vous raconter la plaisanterie, une plaisanterie qui est assez connue autour du président Coolidge. Il y avait à l'époque des fermes pilotes aux États-Unis, et un jour la femme du président Coolidge se promène un petit peu dans cette ferme, et puis avec un fermier, et donc elle voit un coq qui était un très beau coq, vous savez c'est le symbole français, et ce très beau coq s'activait un peu avec beaucoup de poules. Et la femme du président regarde et puis elle dit au fermier « Oulala, mais ce coq, en gros, a beaucoup de vigueur. » Et le fermier lui dit « Oui, oui, madame, il a beaucoup de vigueur. » Et la femme du président dit au fermier « N'oubliez pas de le dire au président. » Et quelques heures plus tard, le président passe et bien sûr le fermier dit au président « Voilà ce qu'a dit votre femme. » Et le président Coolidge lui dit « Mais est-ce que le coq est toujours avec les mêmes poules ?» Et alors le fermier lui dit « Absolument pas, monsieur le président. » Et le président dit « N'oubliez pas de le dire à madame. » Et vous voyez, c'est une petite plaisanterie. Alors ça a donné après des choses importantes, ce qu'on appelle l'effet Coolidge. Non pas sur les coqs, mais c'est quelque chose dans le domaine vétérinaire, autour de la reproduction des animaux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ce brave président Coolidge, il a défini parfaitement, ou sa femme, entre deux, ils ont défini ce que va être un peu ce colloque. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que dit cette plaisanterie? D'abord, vous voyez, si je vous avais dit que simplement la dame était venue, puis elle avait vu le coq qui mangeait beaucoup, et puis après que le président était venu et qu'il ait dit « n'oubliez pas de dire à madame qu'il ne mange pas tous les jours la même chose », la blague aurait été nettement moins drôle. Donc le problème, c'est pourquoi la sexualité, ça nous fait rire, alors que la nutrition, ça nous fait nettement moins rire. Donc vous voyez, ça veut dire quand même que cette question de la sexualité, elle nous prend d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui, dans toutes les sociétés, on représente différents pays, et bien si on a tous ri à la même plaisanterie, ça veut dire qu'il y a globalement quand même quelque chose qui articule de façon très spécifique le langage, les affects et la physiologie. En tout cas, une certaine définition. Donc la sexualité, c'est pas n'importe quoi, mais c'est un objet social complexe. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, contrairement au coq, le président Coolidge, il parlait. Donc nous ne sommes pas uniquement des êtres de reproduction, ce serait d'une certaine manière trop facile, mais nous sommes aussi des êtres de langage et des êtres de société. Donc parler de la sexualité, c'est bien évidemment jamais parler de reproduction. C'est toujours parler d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble de normes, d'un ensemble de conduites qui sont valorisées, dépréciées, cachées, dissimulées, et qui articulent énormément de domaines. Vous voyez, par exemple, dans une ville, il suffit de se promener dans une ville et vous aurez, si on est par exemple à Bamako, vous aurez des dhibiteries, et sur aux devantures des dhibiteries, vous avez des dessins où l'on voit des femmes un peu plantureuses et puis des messieurs qui donnent des gros billets. Et vous avez là un lieu d'hypersexualité, qui correspond d'ailleurs à de la viande grillée. Vous voyez qu'on va manger dans certains lieux et qu'on ne mangera pas dans d'autres. Donc il y a là quelque chose qui va lier dans un lieu très particulier la sexualité et l'alimentation. Il y a des quartiers qui sont des quartiers où même quand on rencontre quelqu'un que l'on connaît, on s'arrange pour ne pas le reconnaître. Il y a une sorte d'opacité sociale qui est permise par la constitution des quartiers. Et donc, vous voyez, on a continuellement ces lieux, et par exemple, quand on est sur les plages en France, on peut observer des jeunes femmes qui sont relativement dénudées, mais c'est autorisé dans ces lieux. Les mêmes jeunes femmes ou les mêmes jeunes hommes qui se promèneraient en maillot de bain à 50 mètres plus loin, eh bien, il y a quelque chose qui serait un petit peu différent. Et donc, vous voyez, on a toute une forme de segmentation de l'espace social qui correspond aussi à des segmentations et à des perceptions très différentes de la sexualité. Dans certains lieux, une jeune fille peut se promener avec une jupe. Dans d'autres endroits, dans certains marchés, si elle se promène avec la même jupe, elle risque d'avoir des gros soucis avec les commerçants. Et donc, vous voyez comment il y a là quelque chose qui, en fait, structure notre perception du monde, qui n'est pas dit, mais que tout le monde a compris. Il y a des sortes de discours sans parole, mais que tout le monde a bien évidemment complètement incorporé. La troisième chose, peut-être, que nous dit cette blague du président Coolidge, c'est que les hommes et les femmes, pour différentes raisons, ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, peu importe pour quelles raisons, c'est-à-dire qu'il y a des raisons physiologiques, sans doute, sociales, historiques, mais que tout ça bouge énormément. C'est-à-dire cette articulation de raisons physiologiques, sociales et historiques ou linguistiques, ça crée des agencements. Et ces agencements ne sont jamais des agencements fixes, mais ce sont toujours des formes de configuration instables qui se transforment historiquement. Vous savez que, par exemple, il y a un très beau livre qui est paru qui s'appelle « Histoire du pantalon » en Europe et qui montre comment autour du pantalon, il y a eu des débats extrêmement importants pour savoir qui aurait le droit de porter le pantalon. Et vous savez qu'au Parlement français, par exemple, le pantalon est toujours interdit légalement pour les femmes. Vous savez aussi que, par exemple, la braguette, grande invention du vêtement, la braguette était, au temps du XIVe, XVe siècle, était un instrument du costume masculin qui montrait la force de la personne, et le roi avait droit à avoir une plus grande braguette que ses sujets. Et donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui s'inscrit aussi sur le corps comme étant un signe social. Alors, je ne vais pas trop avancer sur ces questions qui lient à la fois l'historique, l'esthétique, le sémantique et le physiologique, mais simplement, ça pose un certain nombre de questions, ces petites réflexions. C'est quand on dit, par exemple, santé de la reproduction. Qu'est-ce que ça peut signifier très concrètement, la santé de la reproduction? En fait, en dehors de certains animaux, et pas tous, en dehors de certains animaux, les humains ne se reproduisent pas. Ils ont des histoires d'amour, ils ont des tristesses, des chagrins, des formes de rencontres, ils ont des normes d'alliance, ils ont des normes de filiation, ils ont des conduites qui sont définies par rapport aux sociétés, mais il n'y a jamais de reproduction. Jamais on emmène la vache au taureau et jamais on emmène l'homme à la femme de cette manière-là. Donc comprendre la reproduction, c'est en fait s'interroger sur les phénomènes de sexualité humaine, et la sexualité est bien évidemment quelque chose qui en dit toujours beaucoup plus qu'elle-même. Elle définit des rôles, elle définit des statuts de pouvoir, elle définit des relations pécuniaires, elle définit aussi, disons, des drames qui sont ceux sur lesquels on va travailler. Donc c'est pour ça qu'autour de cette question de la reproduction, nous allons travailler, lors de ce colloque ou séminaire ou atelier, peu importe les termes, en tout cas, lors de ce travail en commun que l'on va avoir, on va travailler sur des questions de fécondité. Mais bien évidemment, parler de fécondité, c'est parler de relations de genre. C'est parler de la façon très particulière dont vont s'agencer des personnes de genres différents. Et vous voyez, quand on dit genre, on n'est plus tout à fait déjà dans les sexes, c'est plus tout à fait de la physiologie. C'est déjà la façon dont une société va inscrire diversement les droits, statuts, conduites, attitudes, sphères de langage autorisées des hommes et des femmes. On va parler des grossesses et des grossesses non désirées, mais derrière les grossesses non désirées, il y a à la fois, là aussi, des questions de rencontre, des questions de pouvoir, des questions parfois de violence, des questions de viol dans certains cas. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, toutes les questions liées à la justice. A-t-on le droit d'avorter? A-t-on le droit de porter plainte? À partir de quand une plainte est-elle recevable par un instrument de justice? Mais donc, vous voyez que là, une fois de plus, la sexualité en dit bien plus qu'elle-même. Elle dit aussi ce qu'il en est des choix d'une société et ce qu'une société décide pour son propre avenir. On va parler des services de santé, mais parler des services de santé, que ce soit toutes les personnes qui travaillent dans les services de santé, ça ne se limite bien évidemment pas au fait d'avoir une posture ou un poste dans un organigramme. C'est aussi toutes les charges qui pèsent sur les gens. C'est la façon dont, par exemple, on admet certaines règles éthiques. C'est la façon dont on fait ou dont on ne fait pas ce que l'on sait devoir faire. Pourquoi on le fait avec certains, pourquoi on ne le fait pas avec d'autres. Et peut-on faire la même chose avec tous? Voilà des questions très claires. Et puis c'est aussi, on va aborder un tout petit peu ces questions-là, c'est aussi la façon dont on pense à l'avenir. On a beaucoup glosé sur la façon dont les sociétés déterminaient les conduites des personnes, mais il y a aussi, bien évidemment, pour le prendre dans une terminologie un peu sartrienne, il y a la façon dont on construit sa liberté. Construire sa liberté, ça veut dire faire des projets, décider, choisir. Et je pense qu'on abordera un peu, de façon tout à fait intéressante, la question des enfants et la question dont les enfants imaginent leur avenir. La façon dont les enfants imaginent leur future famille et dont ils pensent à la construction de cette famille. Alors vous voyez, ça donne un ensemble très vaste de sujets de réflexion. Chacun de ces sujets sera abordé par la mise en confrontation amicale de différentes disciplines. Les disciplines du chiffre et de la statistique, la démographie ou l'épidémiologie, les disciplines cliniques dans certains cas qui nous permettent de savoir quels sont les problèmes, et puis les disciplines, disons, venant des sciences sociales et humaines, des SHS comme on dit, et qui normalement doivent essayer de reproduire ou de reconstruire le point de vue des acteurs sur ces questions, c'est-à-dire de dire comment différents acteurs pensent ces questions dans leur propre catégorie, avec quels mots ils pensent ces choses-là. Comment ils abordent ces questions, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le réel dont ils vivent chaque jour, et comment ils essayent petit à petit de construire des stratégies ou des tactiques pour améliorer leurs conditions. Donc voilà à peu près, disons, le parcours du travail qui nous réunit. J'espère que tout ça se passera de la façon la plus amicale, mais en même temps la plus dense possible, c'est-à-dire sans gommer les difficultés, sans taire les moments où l'on ne sait pas, et aussi sans, par exemple, pourquoi pas, par moment, affronter les langages lorsque, visiblement, on a des difficultés méthodologiques pour passer, par exemple, du quantitatif au qualitatif, parce que c'est souvent dans ces moments de creux que réside le plus intense des réflexions. Voilà. Merci beaucoup.